Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Merci à vous de nous suivre sur les ondes de Canal M. Nos invités aujourd'hui ont réussi des exploits dans des sports de haut niveau, pratiqués le plus souvent par des hommes, soit l'haltérophilie et le football. Parallèlement à leur carrière d'athlète, elles ont toutes deux fait leur médecine, non sans avoir décroché d'autres diplômes d'études supérieures auparavant. Alors, presque 20 ans les séparent, mais une énergie peu commune et un parcours inspirant unissent Armine Christina Léo et Maryse Turcotte. Bonjour Maryse Turcotte.
Oui, bonjour.
Alors, bonjour Armine Christina Léo.
Bonjour, bonjour.
Alors, bienvenue à toutes les deux à Vivement les femmes et puis merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai très hâte, je suis fébrile un peu de faire cette émission parce que je trouve déjà votre parcours tellement stimulant et hors du commun et j'ai hâte d'en savoir plus. Alors, je vais commencer par Maryse. Alors, Maryse Turcotte, vous êtes actuellement gérontopsychiatre à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. Alors, dites-nous là, avant de devenir médecin, comment en êtes-vous venu à pratiquer votre sport, l'haltérophilie?
Tout d'abord, je tiens à souligner, moi j'ai toujours été une sportive, je suis une personne qui a besoin de bouger constamment, même encore aujourd'hui, à près de 48 ans. Donc j'ai fait un parcours au soccer, principalement quand j'étais jeune, les Jeux du Québec, l'équipe, disons, élite de la région de Sherbrooke où j'habitais. J'ai fait un peu de patinage artistique, c'était mon rêve, mais bon, ça a pas été un grand succès. D'autres sports, le volleyball, et puis finalement, en étant bénévole lors d'une compétition en haltérophilie qui était organisée à mon école secondaire, c'est là que j'ai découvert le sport, donc vraiment un peu purement au hasard. Et c'était le défi de tenter, d'essayer. Et ben, rapidement, j'ai accroché dans ce sport-là et on sait la suite des choses.
Oui. Alors, c'est venu par hasard.
Oui, la vie, c'est comme ça. Hein. Des fois, on fait un essai d'un côté ou d'un autre et puis ça nous mène vers un autre, un chemin en particulier. Puis c'est un peu la même chose aussi dans les études. Parfois, là, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler aujourd'hui aussi.
Tout à fait, tout à fait. Donc, je poursuis avec Armine Christina Léo. Donc, vous êtes en troisième année de médecine d'urgence. Il vous reste 2 ans, pour terminer votre résidence. Et vous pratiquez encore le football et vous vous préparez à participer aux championnats mondiaux les prochains. Et comment vous êtes venue à pratiquer le football, vous?
Très similaire à Maryse, je pense. J'ai été dans les sports toute ma vie. J'ai commencé aussi avec le soccer pendant près de 17 ans, soccer d'élite. J'ai fait du basketball aussi à un niveau collégial. J'ai transféré vers l'équipe d'athlétisme quand j'étais à l'université la deuxième fois à l'université, donc de 2016 à 2020. J'ai adoré mon expérience universitaire en athlétisme. Puis en sortant de mes études de médecine à l'Université de Montréal, j'ai en même temps cessé l'athlétisme, la pandémie a frappé. Je me cherchais une autre opportunité de faire du sport de haut niveau. Je cherchais à retrouver le sport d'équipe qui m'avait à ce point-là impressionné et tellement marqué toute ma vie. Puis je suis tombée un peu comme ça, de fil en aiguille, vers des équipes de flag football. J'ai commencé à regarder c'était quoi ce sport-là. J'ai découvert avec plaisir que ça réunissait pas mal les habiletés de tous les sports que j'avais déjà touchés auparavant, que ma vitesse était utile. Puis par la suite, j'ai découvert qu'il y avait une équipe de football contact féminine à Montréal, le Blitz. Et je me suis dit, je vais me présenter aux pratiques à essai, puis on va voir ce que ça donne. Ça s'est super bien passé, ils m'ont offert de rester dans l'équipe. Et de là, tout a déboulé. Fait que ça a été un amour de cette manière-là qui est tout récent, mais qui a amené tellement de belles choses déjà. Donc, en 2022, j'ai été sélectionnée pour l'équipe canadienne de football canadien. Et donc, on est allé au championnat du monde en 2022 déjà. En Finlande en juillet. Donc ça, c'est fait. C'est déjà derrière moi. C'est complètement fou. C'est arrivé tellement vite. Puis les prochains sont dans 3-4 ans. Fait qu'on continue la préparation. On n'a pas le choix.
Ah oui. Est-ce que, parce qu'en plus, on parle de sport quand même masculin, est-ce qu'on peut encore le dire en 2023? Armin?
Oui, ben oui et non. C'est vrai que ce sont des sports qui sont historiquement masculins.
Oui.
J'aime par contre l'idée que de plus en plus on soit capable de dire non, c'est un sport comme un autre, puis
oui.
Femmes comme hommes peuvent le performer, puis le performer à un haut niveau.
Oui.
Donc c'est vrai que ça surprend encore en 2023 quand je dis que je joue au football, puis on me regarde avec des grands yeux.
C'est
tu veux
ça.
Dire du soccer, c'est ça?
Oui.
Non, je parle vraiment du football avec le ballon ovale, puis avec le contact, tout ça.
Oui.
C'est une très belle expérience, mais de plus en plus, on en voit des femmes, des jeunes femmes, des jeunes filles qui se lancent dans ces sports-là.
Oui.
On prend la place, puis on performe très bien dans ces sports-là aussi. Fait que c'est beau à voir, je trouve.
J'en doute pas. Puis vous, Maryse, est-ce que l'haltérophilie, c'est encore un monde d'hommes ou beaucoup de femmes le pratiquent?
J'ai le goût de rire, ça me fait sourire d'écouter ma collègue. On a souvent justement à expliquer, un peu presque justifier parfois. Mais l'haltérophilie, vous savez, c'est un sport de catégorie. C'est un sport où on a plusieurs qualités athlétiques qui doivent se développer. En tout cas, il y a un peu cette tendance-là, puis je trouve ça rigolo de... vraiment, c'est le même discours, là, les mêmes choses qui se répètent. Mais non, je dirais plus maintenant quand même que l'haltérophilie est considéré un sport masculin pour les hommes. L'entrée des femmes aux Jeux olympiques en l'an 2000, donc j'étais la seule représentante du Canada, et en 2004 également, mais vraiment ça s'est développé beaucoup, beaucoup.
Mm-hmm.
Et je ne crois plus, du moins pour les gens qui sont à l'intérieur du sport, c'est très... égal, hein. Peut-être encore dans la société, ça peut être un peu moins connu, mais je pense que ça a fait son bonhomme de chemin avec toutes les belles athlètes qui se sont développées dans les dernières années, puis belles athlètes au sens où qualité athlétique, moi je le vois comme ça. Mais c'est sûr, tu sais, avec le recul, on se fait quand même une position un peu plus peut-être mature ou nuancée de dire, ben ça reste que l'aspect physique d'une femme peut. T'sais, je peux pas prétendre que je vais pouvoir être aussi, disons, forte, entre guillemets, qu'un homme. Là, on a quand même certaines limites, mais on a d'autres qualités qui peuvent compenser parfois aussi.
Oui.
Ceci étant dit, ça me faisait sourire aussi parce que quand j'étais jeune, je raconte ça des fois aux gens, je jouais au hockey à la patinoire en face de la maison, puis les gens disaient, elle est bonne. Donc, je m'imaginais quand j'étais toute jeune, c'est genre, un jour, je serai la première femme à jouer dans la Ligue nationale de hockey parce que j'écoutais beaucoup le hockey quand j'étais jeune. Mais t'sais, voyons donc, t'sais, je mesure 5 pieds, là, c'est complètement irréaliste. Là, mais t'sais, ça démontrait quand même l'idée du défi, puis d'un peu de sortir les sentiments. C'est battu là, de façon générale. Là.
Je vois. Je suis avec Maryse Turcotte, géronto, psychiatre à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville, et Armin Christina Léo, résidente de troisième année de médecine d'urgence. Madame, j'ai envie de vous demander à chacune de vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous prédisposait à emprunter un parcours si exigeant, soit quand même un sport de haut niveau et les études en médecine? Parce que ça prend tellement la rigueur pour ces deux, champs. Donc, je vous écoute, Armin.
C'est une très, très bonne question. J'avais, en fait, cette discussion avec une de mes tantes il y a environ 2 semaines, où est-ce qu'on se posait cette question-là, justement.
Ah oui?
Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont avoir cette tendance un peu presque obsessive de se pousser dans différentes sphères de leur vie, puis comme jamais arrêter. Puis pour être très honnête, je sais pas. j'ai pas encore trouvé la réponse. Je pense que j'ai toujours été comme ça. Je pense que j'ai toujours été à la recherche de cette espèce de sentiment de se dépasser, puis d'être fière de soi. J'ai été très, très, très choyée dans mon enfance par ma famille, mes parents, de me laisser expérimenter toutes sortes d'activités physiques de sortes différentes, des activités intellectuelles avec une de mes tantes, parce qu'on allait à des activités culturelles, puis voir comment est-ce que je me développais là-dedans. Puis j'imagine, d'une certaine manière, recevoir beaucoup de commentaires positifs, genre « waouh, elle performe bien, waouh, ça se passe bien, incroyable, ceci, cela ». Puis j'ai dû peut-être m'alimenter de, ce sentiment-là, d'être fière de ce que je fais par le regard des autres et en me regardant moi-même aussi, d'être fière de voir que j'étais capable d'accomplir quelque chose que je ne savais pas si j'aurais été capable de réussir. J'ai un peu comme Marie disait tout à l'heure, j'ai joué au hockey aussi plus jeune. Au début des années 90, le hockey féminin, il n'y en avait pas vraiment pour les jeunes filles. Fait qu'il fallait qu'on joue dans les équipes de garçons, en fait. Donc, d'arriver sur la glace, de faire ma place, puis de retirer mon casque à la fin du match, puis que des gens me regardent avec un « Wouah! » La numéro 7, tout ce temps-là, c'était une fille. Puis c'est la fierté qui vient avec ça, de se dire, j'ai fait ça, puis je suis fière de, ce qui, de qui je suis. Donc, je pense que je recherche tout le temps ça. Et j'ai la médecine, tu sais, je pense que ça a été un amour vraiment plus direct, du genre, j'adore l'anatomie, j'adore comprendre le corps humain. Je trouve ça fascinant d'une manière qui est difficilement explicable. Et après mes études en ergothérapie, j'ai travaillé un peu, puis je me suis dit, j'ai envie d'en apprendre plus, je veux tout savoir. Donc, je suis retournée aux études. Mais on peut dire que c'est un coup de folie, là, mais c'est juste, je sais pas.
Incroyable.
Ça a été une recherche de ce sentiment-là, encore une fois, de tout trouver, de tout découvrir, de tout comprendre. Ça m'habite, je pense.
puis vous, Maryse, est-ce qu'il y a quelque chose qui prédisposait? Parce que moi, je peux déjà dire la persévérance, l'acharnement, le positivisme. Donc, alors, je ne sais pas, mais ça doit vous habiter, ça, quand même, comme personne pour arriver. Donc, Maryse, est-ce que... quelles sont, vous, vos prédispositions à tout cela?
Encore le goût de rire.
Oui,
Armin m'a fait sourire une fois de plus en parlant de son coup de folie de retourner sur les bancs d'école après d'autres études. Oui. Mais écoutez, moi, je me ramène à quand j'étais jeune, puis je me ramène à ce que je suis maintenant. Moi, je suis une personne, je dirais un peu fondamentalement, moi, si je suis pas occupée, je m'ennuie, moi, de m'asseoir, tu sais, dans la... Puis c'est intéressant parce que je l'enseigne aux patients, tu sais, mais dans la contemplation, le moment présent, moi, je suis dans l'action. Je suis une personne qui est bien dans l'action. Donc, ça, c'est depuis que je suis jeune et je me suis vraiment trouvée dans le sport parce que, on peut dépenser beaucoup d'énergie psychique, mais physique aussi. Mais tu sais, donc moi, quand je jouais au soccer, je jouais dans mon équipe. J'allais jouer parfois avec l'équipe des adultes de mon entraîneur. Puis ensuite, je revenais au parc tard le soir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne à jouer sur les terrains. Il n'y a pas de fin, tu sais. Puis ça a été un peu la même chose aussi dans la combinaison avec les études. J'ai jamais voulu être médecin. Ceci étant dit, là, ça n'a jamais fait partie de mes rêves ou de mes idées en plus jeune âge, au secondaire, même au cégep, mais c'est venu plus tard par défi, je dirais par défi, par ouverture vers autre chose. Mais pourquoi, c'est quoi la prédisposition? Puis c'est pas un amour de la compétition, là. Je détestais ça, les gens ne le savaient pas. Je pense que j'en ai jamais parlé dans les entrevues que j'ai pu faire, mais moi, la compétition, c'était une torture, là. Le stress, l'angoisse, l'anticipation, la surpréparation au point où je me nuisais parce que je m'entraînais trop par besoin de réassurance. C'était certainement pas la compétition, mais le défi de l'ensemble de l'œuvre, si je peux dire, et même de l'ensemble de l'œuvre qui impliquait de combiner les études et la pratique d'un sport de haut niveau. C'est toujours aller en chercher plus, puis plus, puis plus, puis est-ce que je suis capable de... puis pas par rapport aux autres en tant que tel. C'est sûr que c'est toujours plaisant de recevoir, disons, une certaine dose de reconnaissance, mais c'est vraiment pour soi. Tu sais, puis je le fais chez moi dans n'importe quoi. Là. Aussi simple que de réussir à tenir ma maison bien propre et bien rangée malgré 3 enfants. C'est mes défis au quotidien. Puis je pense que c'est tout ça, mais de trouver une réponse, je crois pas que ça soit possible. Mais je regarde un peu dans le bagage familial. Tu sais, ma sœur, pour ceux qui l'ont connue, Karine, qui a fait aussi de l'haltérophilie, qui a 56 diplômes et des titres professionnels et tout ça. Puis c'est un peu pense. C'est un peu le même profil. Je pense qu'il y a des fois des petites tendances un peu biologiques. Tu sais, je reviens à l'aspect un peu scientifique. Et on voit des profils parfois chez les athlètes. Je veux pas dire qu'on est tous similaires, mais il y a quand même des profils un peu hyperthymiques, un peu hyperactifs. Et là, je parle pas de troubles déficitaires de l'attention, hyperactivité au sens diagnostique, mais un profil, tu sais, disons-le comme ça. Une bonne énergie de base, là, à la base.
Tout à fait. En début d'émission, je disais comment que je m'étais amusée avec ma recherchiste à vos CV parce que quelque part, vous avez comme 20 ans de différence, mais c'est tellement... vous avez comme pris un peu les mêmes décisions à 20 ans d'écart. On parle... alors, si je prends, je m'explique, Armine n'a pas été tout de suite en médecine. Il y avait l'ergothérapie avant. Ouais. Puis Maryse, si je ne me trompe pas, il y avait la... diététicienne avant au cégep, puis en administration. Donc, vous avez quand même fait d'autres diplômes avant d'arriver en médecine. Donc, qu'est-ce qui fait que ce parcours-là, il y a eu d'autres choix avant aussi? Est-ce que tout est venu par hasard ou quand même il y a eu un fil conducteur?
Je pense que c'est un peu un mélange des deux, puis ça me parle aussi quand Maryse explique qu'elle voulait pas être médecin à la base. Oui. C'est la même chose pour moi. Je voulais pas être médecin à la base. Ça faisait pas partie de mes objectifs. Puis c'est pour ça que on parle des fois c'est un peu par hasard, mais je pense que j'aurais pas pu devenir médecin ou le médecin que je suis aujourd'hui sans avoir été ergothérapeute. Je pense qu'il fallait vraiment que je passe par là. Mm-hmm. Pourquoi? Bon, après c'est un peu très relatif là, mais c'est l'idée que en sortant du cégep, ce qui m'appelait vraiment, c'était cette profession-là, l'ergothérapie. Je continue à dire que c'est une des plus belles professions du monde, là, je trouve. Et c'est là-dedans que j'ai découvert des nouveaux aspects de ma personne, des nouveaux aspects de ma personnalité, des nouveaux aspects de comment est-ce que je voyais le monde et qui m'ont poussée à faire comme peut-être que j'ai envie d'aller plus loin à certains égards, aller découvrir quelque chose de plus, retourner aux études, aller essayer quelque chose de différent. Mm-hmm. Puis que j'ai voulu me développer dans la médecine. Il y a toutes sortes de parcours en médecine. Il y a des gens qui sortent directement du cégep, qui deviennent d'excellents médecins. C'était ça leur parcours, c'était ça leur destinée. Il y a des gens qui savent, depuis qu'ils ont 6 ans, qu'ils veulent être médecins. Mm-hmm. Il y a des gens qui se réveillent à 46 ans, puis qui font comme, finalement, peut-être que la médecine, ça m'appelle. Oui. J'avais des gens dans ma classe qui avaient eu de longues carrières en musique ou autre, puis qui finalement se sont trouvés en médecine.
En médecine,
tous ces parcours-là, c'est qui valent, je trouve. Mais c'est qui valent, ouais, bref. Oui. c'est ça. Ça a été mon parcours. Puis je suis très, très contente de la manière dont ça s'est fait parce que je ne pense pas que j'aurais été qui je suis aujourd'hui sans ça.
Oui. Et vous, Maryse, en diététique au cégep, en administration, comment expliquez-vous ce parcours?
Ça remonte à loin. En fait... même au secondaire, bon, c'est là qu'on amorce nos réflexions quant à notre choix de carrière, les applications au cégep. Moi, écoutez, c'est un point d'interrogation. J'ai coulé un seul cours dans toute ma vie, malgré un bac, une maîtrise, mon doctorat en médecine, puis des diplômes connexes en comptabilité. Mais c'était mon cours d'éducation choix de carrière au secondaire 5. J'ai pas remis de travail final parce que je savais pas quoi écrire. Donc, ça part de là, en fait, mon problème, si on peut dire. Mais donc, on avait eu un cours de nutrition de l'athlète. Donc, dès qu'en diététique, je trouvais intéressant de trouver travailler dans l'administration d'un service de diététique. Donc, bac en administration à l'UQAM, en gestion des opérations de la production. Ben là, je suis recrutée au programme de relève des cadres du réseau de la santé. Ça me motive. Donc, je complète une maîtrise en administration de la santé à l'Université de Montréal. Il y a des médecins dans ma classe. Il y a des ergos, justement, et beaucoup de professionnels. Et il y avait un entraîneur en haltérophilie, André Rodrigue, qui est de la Beauce. Et puis, il dit, Maryse, ils prennent du monde comme toi en médecine, savais-tu ça? Bon, et c'est vraiment ça l'idée. Puis le défi, c'est de dire, OK, après de 30 ans, est-ce que par intérêt, par curiosité, par défi, est-ce que je pourrais essayer d'appliquer au programme de médecine? Bon, programme de médecine, je devais faire de la médecine familiale, la psychiatrie m'intéressait beaucoup et la gérontopsychiatrie plus spécifiquement, mais là, on parle d'années et d'années et d'années. Moi, je vieillis dans tout ça, puis toute la petite famille au travers, mais quand même, j'ai poussé vers ces options-là et j'ai même complété le programme de sur-spécialité. C'était un nouveau programme québécois là, qui démarrait là, donc pour la sur-spécialité de gérontopsychiatrie. Ça se donnait pas au Québec avant.
Okay.
Donc voilà, en tout cas, c'est des défis qui se présentent au fur et à mesure. Et puis, mais par contre, les décisions, ben on doit les prendre. Et est-ce qu'il y a un peu parfois d'impulsivité dans ces décisions-là? Oui et non. Je me constate aussi comme une personne réfléchie, mais qui préfère prendre des décisions, quitte parfois à les regretter un peu, que de ne pas les prendre et de regretter de ne pas les avoir prises. Moi, ça a toujours été ma façon de penser et de fonctionner. Donc, c'est un peu tout ça, ce parcours-là. Mais je regrette pas tout ça. Ça n'a pas toujours été facile. Mais il y a un point, je tiens à souligner, moi, qui a quand même favorisé la poursuite des études, c'était les subventions d'athlètes que j'ai reçues. Et principalement, ben, il y en a eu plusieurs. Là, il y a des commanditaires privés aussi au travers, puis les programmes du gouvernement du Québec et du Canada. Mais Sport Canada payait nos études universitaires. J'imagine que les programmes sont encore construits comme ça. Mais moi, mes frais universitaires étaient payés, ce qui était vraiment un facteur favorisant la poursuite des études au travers de ma carrière. La Fondation de l'athlète d'excellence du Québec, qui était un de mes principaux partenaires au niveau subvention, ben, eux encourageaient les programmes d'études. Donc, c'est tout ça ensemble. Peut-être que sans quoi, je ne serais pas allée aussi loin dans tout ça. Puis, j'aurais fait autre chose, mais je pense que l'après-carrière est quelque chose qui se prépare chez les athlètes aussi.
Oui. Mmh. Certainement, je pense que vous auriez fait autre chose, Maryse. Toujours en compagnie avec Maryse Turcotte, gérontopsychiatre à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville et Armine Christina Léo, résidente de troisième année de médecine d'urgence. Alors, mesdames, les épreuves internationales de compétition sont très fortes et puis relevées aussi, donc c'est un gros défi. Puis, j'aimerais vous poser la question, en faculté de médecine, est-ce que, c'est sûr qu'il y a les défis, mais est-ce que c'est le même genre de défi?
Bonne question.
il y a une compétition, c'est quand même assez clair. Il y a une compétition contre soi, il y a une compétition. Je sais pas comment tu l'as vécu, Armin, mais en tout cas, il y a beaucoup de stress. Puis on est quand même sélectionné pour, je reviens encore au profil, hein, profil qu'on représente, des gens souvent de nature un peu obsessionnelle, anxieuse, là, c'est un peu la psychiatre qui parle, mais au sens où on voit des gens qui ont la crainte de pas bien réussir, de pas bien faire, de faire une erreur. Donc, on va se surcharger, se submerger d'exigences, de surinvestissement dans les études. Donc, il peut découler de ça aussi une certaine compétition, parfois aussi pour les applications en spécialité et en sur-spécialité.
Oui.
Mais c'est quand même une ambiance très saine, mais je pense que, comment je pourrais dire, on est notre propre bourreau dans tout ça. Puis on est quand même, je pense, sélectionné un peu pour cette qualité-là qui peut devenir un retournement contre ça aussi par moment. Mais il y a quand même une certaine compétition au travers les études de médecine.
Oui. Armine, vous avez aussi eu la même expérience?
Oui, je pense que c'est très similaire, en effet. Là, il y a la compétition à l'international versus même dans les sports de compétition, même locaux, là, au niveau national, provincial, tout ça. Puis la compétition qu'on a dans le parcours en médecine, c'est très similaire. C'est la nécessité d'exceller en tout temps. Puis ce qui vient avec les hauts et les bas, finalement, puisqu'on a les moments où est-ce qu'on réussit à performer, on réussit à exceller, puis des moments où est-ce que ça se passe moins bien.
Mm-hmm.
Et c'est d'apprendre à se relever de ces moments-là pour continuer, puis que la prochaine fois, peut-être que celle-là, ce sera la bonne. Tu sais.
Oui.
je pense que pour moi, ça aura toujours été plus facile de faire ça dans le sport que dans la médecine. J'ai trouvé mon parcours en médecine très difficile. Mm-hmm. Ça n'a pas été une période facile dans ma vie. Par contre, ça a été tellement, tellement gratifiant de me rendre là où je suis aujourd'hui parce que ce que je fais en médecine d'urgence, c'est tout ce que j'aurais pu rêver et imaginer sans le savoir. Là, finalement, je suis tellement heureuse d'être là. Mm-hmm. Mais ça a été un parcours difficile. Oui. Ça a pris que je m'entoure des bonnes personnes, finalement. Puis que mes proches, mes amis, ma famille me supportent là-dedans, finalement, pour me rendre. Mais oui, c'est exigeant, c'est difficile, mais c'est tellement gratifiant qu'on continue.
Est-ce que vous iriez aussi loin de dire que votre bagage d'athlète accompli vous a aidé dans vos études supérieures?
Ça a été crucial. Oui. J'aurais jamais pu continuer, terminer la médecine sans avoir été athlète en même temps.
Ah oui.
Je pense que, justement, un peu comme Marie disait, la qualité d'athlète, ça fait partie de moi depuis que je suis toute petite. Mm-hmm. Puis c'est ce qui me permet d'avancer dans toutes les sphères de ma vie, puis qui me rend saine d'esprit aussi quand je suis dans mes études ou au niveau universitaire ou tout ça. Donc, je pense que sans le sport, j'aurais pas pu être médecin comme je le suis. Mm-hmm. Donc oui, non seulement ça a aidé, mais ça a été vraiment crucial à mon développement.
Oui.
Puis les qualités que j'ai développées comme athlète à force d'être dans les sports de compétition m'ont aussi été très, très utiles au moment de rentrer en médecine puis de passer à travers les étapes de ce parcours-là qui est aussi exigeant tout au long.
Ah oui. Puis Maryse, ce sera le même cas chez vous?
Oui, certainement. C'est le contrôle... Bon, de l'anxiété, l'organisation, hein, les capacités à mettre ses priorités. Il y a des choix à faire. On peut parler de sacrifice et tout ça, mais c'est sûr que l'expérience d'athlète sert aux études en médecine, mais peu importe dans quel domaine, on pourrait parler de musique ou autre. Moi, je pense que qui émerge de ça, puis que je vois là avec l'âge qui avance, c'est le défi aussi, puis je reviens souvent sur ce mot-là, mais ça en est pour moi de sortir un peu de tout ça. Là. Je fais encore beaucoup d'entraînement, je travaille, mais c'est de réussir à avoir un équilibre et à redévelopper des loisirs, parce que quand on s'investit dans des études comme au niveau de la médecine, et certainement dans d'autres domaines aussi, on délaisse des choses, et là, c'est de retrouver vraiment des capacité à avoir du plaisir, des loisirs, d'être capable de relaxer, mais c'est plus évident que ça.
Oui.
Ah oui, moi je me suis inscrite, mes enfants jouent de la batterie, tu sais, puis moi je fais de la batterie avec monsieur Jalbert au collège Saint-Bernard ici à Drummondville, tu sais, des petites choses comme ça qu'on essaie de mettre dans nos vies au travers. Puis je sais pas, Armine, où elle est encore en plein dans son cheminement, c'est très très exigeant, mais il y a d'autres étapes par la suite, puis c'est presque d'autant plus difficile parce qu'on s'embarque dans des roues qui tournent, puis comme beaucoup de gens dans la population d'ailleurs, là, tu sais, on travaille, on roule notre quotidien, puis il ne reste plus beaucoup de temps après.
Oui.
Écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
De retour avec Maryse Turcotte, gérontopsychiatre à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville, et Armine Christina Léo, résidente de troisième année de médecine d'urgence. Maryse, vous êtes gérontopsychiatre. En quoi consiste votre travail, et puis pourquoi ce choix aussi de carrière?
Donc, la gérontopsychiatrie, on l'entend bien si on décortique un peu le vocabulaire. Donc, moi, tout d'abord, je suis médecin psychiatre. Donc, la psychiatrie est une spécialité de la médecine. Mm-hmm. Donc, qui s'adresse aux problématiques de santé mentale dans la population. Donc, la dépression, les troubles d'anxiété, les troubles psychotiques comme la schizophrénie, les troubles de l'humeur, les troubles bipolaires, toutes les troubles somatiques, somatoformes, et j'en passe, là. Bon, la particularité de la gérontopsychiatrie, c'est en fait la psychiatrie appliquée à l'âge avancé. Et il y a beaucoup de particularités. On comprend qu'avec l'âge, il y a souvent plusieurs conditions de santé physique, beaucoup de médicaments pour ces conditions-là, des fragilités au niveau de la cognition, donc la mémoire, la concentration, le langage, l'autonomie, tous les aspects sociaux qui évoluent. Et vraiment, ça en fait une clientèle très particulière et depuis plusieurs années maintenant. Donc, il y a une sur-spécialité qui est la gérontopsychiatrie. J'ai un travail assez varié. Ça a été un début de pratique un peu particulier au sens où je devais construire ma pratique. Parce que la gérontopsychiatrie, principalement, si on remonte à il y a plusieurs années, ça se pratiquait plutôt en milieu universitaire.
Oui.
Donc, les grandes régions, Montréal, Québec, Sherbrooke, et des gérontopsychiatres qui travaillaient dans cette spécialité-là dans les régions, c'était moins commun. Donc, c'était de construire ma place. Hein, donc, il n'y avait jamais eu de gérontopsychiatre, évidemment, à Drummondville. Et c'était de comment je pourrais dire, d'offrir mes services, de développer des partenariats. Et vraiment, ça a été une évolution sur quelques années. Mais maintenant, je peux dire que mon rôle est bien établi, autant à l'hôpital, en CHSLD, dans plusieurs résidences, dans des ressources intermédiaires et même en consultation un peu plus élargie dans ce qu'on appelle le centre d'expertise gériatrique, qui se veut une clinique d'évaluation cognitive, fonctionnelle de cas complexes de personnes âgées. Âgées, c'est toujours entre guillemets. Hein. Bon, c'est quoi l'âge? Je pourrais en parler bien longtemps. C'est un sujet qui était très intéressant pour moi, mais des fois, on voit des jeunes, hein, vous savez, des troubles cognitifs qui débutent en bas de 55 ans.
Oui.
J'en reçois, là, tu sais, puis il faut évaluer comme il faut ces situations-là avec précision. Voilà. Donc, mais pourquoi principalement cette clientèle-là? Bon, moi, j'ai toujours eu des bons contacts, des belles relations avec mes grands-parents. La clientèle âgée, c'est ce que je préfère. C'est ce qui m'a pisté un peu tout naturellement vers là.
Oui. Oui. Merci, Maryse. Armine, vous avez sans doute vu, comme tout le monde, Damar Hamlin, joueur au Bills, hein, s'est fondé dernièrement. Comment voyez-vous cet accident en tant que footballeuse, mais également aussi en tant que médecin?
C'est toujours difficile d'être témoin de ce genre d'événement-là. C'est, j'ai vu un message passer sur Internet récemment qui expliquait quelque chose qui est très, très vrai. C'est on assume que les professionnels de la santé, on est rendu habitués de voir ce genre d'événements-là, des personnes qui viennent en arrêt cardiaque. J'en vois régulièrement au travail, ça fait partie de mon travail, mais ça le rend pas moins troublant quand on le voit, puis encore plus dans un événement où est-ce qu'on est pas censé voir ça, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est très, très, très troublant. C'est un événement qui, one in a million, là, son accident est très troublant, traumatisant, effrayant pour beaucoup. C'est très normal comme sentiment parce que c'est pas censé arriver, mais c'est des choses qui arrivent. La vie est parsemée d'accidents, parsemée d'événements qu'on a du mal à expliquer, qui sont tristes, qui sont tragiques pour la plupart. Et dans une certaine mesure, je pense comme médecin, c'est un peu ça que je recherchais aussi, d'être capable de faire quelque chose si ça devait arriver. C'est comme, j'ai pas de contrôle sur ce qui arrivera ou ce qui n'arrivera pas dans le monde dans lequel on vit, mais si j'ai les habiletés techniques, cognitives et pratiques pour réagir, au moins j'aurai l'impression que j'ai fait ce que je pouvais. Donc, je pense que c'est là que la partie médecin en moi se dit, OK, si j'avais été sur ce terrain-là, au moins, je suis contente de savoir que j'aurais su comment réagir à ça. Je pense que c'est ce dont moi, j'ai besoin. J'aurais pu vouloir contribuer au monde dans lequel on vit d'une autre manière, mais je pense que cette manière-là me correspond bien. Puis j'ai un karma très particulier, là. Je veux dire, je tombe souvent sur des accidents.
Ah oui.
Être dans l'avion en route vers des vacances, puis y a-t-il un médecin dans l'avion parce que quelqu'un est en train d'avoir une... Ça m'arrive.
Oui.
Ça m'arrive très souvent, puis ça a été toujours comme ça. Puis je veux dire, je pense qu'il y a d'une certaine manière... ma vie a peut-être été tracée pour que j'aille en médecine parce que finalement, développer cette habileté-là, même chose en urgence finalement, ça m'a été très, très, très utile dans les dernières années.
Alors les deux, vous êtes dans vos bons choix de carrière finalement.
Définitivement.
Alors Maryse, vous avez, vous, trois enfants, deux garçons et une fille. Puis je pense que précédemment, vous avez dit que vos enfants faisaient aussi du sport. Mais l'autre question qui vient aussi avec, comment arrivez-vous, avec la conciliation travail-famille, avec tout ce que vous faites?
Oui, travail-famille, puis mon besoin de bouger à tous les jours.
Oui.
Écoutez, ben je suis... à la maison, il y a des télévisions, là, mais elles sont à peu près pas ouvertes. les loisirs, le plaisir, il faut le trouver autrement par exemple, en organisant une activité de ménage commune où on met de la musique et tout le monde met la main à la pâte et puis on travaille en positionnant cette tâche-là comme quelque chose de plaisant. Oui. Mais je suis vraiment une personne très organisée. C'est ce qui me permet de fonctionner, d'avoir du temps. Je suis pas une personne qui dort énormément non plus, donc je peux compenser. Là, c'est pas rare qu'en soirée, je corrige des rapports à distance, je vais faire de la dictée de notes, genre de fin de journée-là tardive une fois les enfants couchés. Mais tu sais, ça se fait, ça s'organise. Puis c'est une question de priorité, de choix, d'activités connexes aussi. Là, c'est sûr que je suis pas la personne qui a énormément de temps à relaxer, mais d'un autre côté, ça me plairait pas. Donc, ça va pour l'instant. C'est sûr que je prédis que la fatigue, parfois, se fait sentir, mais je pense que c'est normal. Puis, on le vit tous, tu sais, les parents, aujourd'hui, on travaille, on court, on essaie de s'entraîner un peu à gauche, s'entraîner un peu à droite. Moi, je lis des articles scientifiques pour me tenir à jour sur le vélo stationnaire ou sur le tapis roulant. J'essaie souvent de combiner deux ou trois choses à la fois.
Oui.
Mais en étant bien structuré, planifié dans mes horaires quotidiens. Là.
Avec vos choix à toutes les deux, c'est sûr que l'agenda doit être réglé au quart de l'horloge.
Voilà. Tout à fait. Puis, on se trouve des outils principalement aussi dans la pratique médicale. Les mois passent, les années passent, et puis avec l'expérience, on apprend à justement mieux gérer son quotidien. On est toujours plein d'imprévus, évidemment, en milieu hospitalier.
Oui.
Et ce qu'on planifie n'est pas toujours la réalité au bout de la journée, mais on se module. Puis on apprend surtout à mettre nos limites graduellement. Il y a pas de fin, hein? Il n'y a pas de fin dans ce qu'on fait. Je pense que c'est d'apprendre à se connaître au travers de ça, puis respecter nos propres limites.
J'ai le plaisir de poursuivre avec mes invités Maryse Turcotte, gérontopsychiatre à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville, et Armine Christina Léo, résidente de troisième année de médecine d'urgence. On a parlé de la famille, de vos enfants, Maryse. Armine, précédemment, vous nous avez aussi dit que la famille était importante pour l'accompagnement, mais j'aimerais ça vous entendre un peu plus sur l'entourage aussi dans vos choix.
Oui, certainement. J'ai beaucoup, beaucoup de chance d'être entourée par beaucoup de gens qui m'encouragent, qui me supportent, qui sont là pour me rattraper quand je m'écroule un petit peu, et qui me donnent le petit coup de boost là dont j'ai besoin quand les choses deviennent difficiles.
Oui.
J'ai une grande, grande, grande famille. La grande majorité d'entre elles est à Montréal, une petite partie en Haïti, une petite partie aux États-Unis, mais on est tous très tissés serrés, fait que c'est les rencontres régulières avec la famille qui font du bien, c'est la petite visite chez la maman, les dimanches soir, aller souper tout le monde ensemble, parler de la vie, repartir avec un Tupperware au besoin. tu sais, avoir des contacts sociaux aussi que je priorise. Il est arrivé très souvent que je fasse le choix de prioriser d'aller voir des amis plutôt que d'étudier parce que à ce moment-là, c'est ce dont j'avais besoin.
Ouais.
Fait que je pense que ça a été crucial dans mon parcours aussi d'être si bien entourée de mes partenaires de vie, de mes amis, de ma famille, des gens qui sont vraiment avec moi à travers tout ça. Puis ça me fait tellement du bien de pouvoir partager mes victoires et mes défaites, mon quotidien, les petites particularités, des choses que j'ai fait dans ma journée avec des gens qui me sont proches, puis de rire à travers tout ça, de toutes sortes de choses, puis d'avoir des moments pour décrocher aussi, puis d'oublier l'hôpital, d'oublier le terrain, puis d'aller faire une activité random dans un parc. Là. C'est toutes ces choses-là qui me font du bien. Je pense que je carbure beaucoup aux contacts sociaux, aux connexions avec les autres. Donc, parler, être proche de... C'est ce qui me fait du bien puis qui me permet d'avancer.
Oui. Puis vous, Maryse, votre entourage également, déjà avec les enfants, ça vous a aidé à poursuivre et peut-être aussi à vous ressourcer?
Oui, certainement. Bon, là, la famille élargie, ma sœur principalement, qui a vécu la carrière sportive aussi, et son conjoint Sébastien Gros, qui avait fait en fait les Jeux olympiques avec moi en 2000. Donc, c'est mon beau-frère. On est quand même une famille d'athlètes. Je pense que ça l'aide à se soutenir aussi, à se comprendre. Mm-hmm. Évidemment, ma mère a toujours été là, mais sinon, tu sais, par rapport à l'hôpital, nous, tous les mardis, on s'assoit, les collègues, tous les médecins psychiatres, et c'est un peu notre espace à nous pour ventiler, puis ça, c'est toujours un moment, je pense, privilégié. C'est sûr que c'est pas toujours facile, mm-hmm. le quotidien, les journées, mais je pense de pouvoir... le verbaliser, puis rire un peu, tu sais, ça prend un peu d'humour au travers le sérieux du quotidien, puis ça, c'est faut un peu dévier vers là aussi parfois, là. Mais tu sais, sinon, pour moi, comment je peux me ressourcer, c'est quand j'ai l'occasion, c'est d'aller marcher.
Oui.
J'aime aller marcher, je peux partir dans mon monde, dans ma ville à moi, et errer un peu sans but. Ça, c'est ma détente suprême. Le temps manque, mais ça peut m'arriver d'y aller très tôt le matin ou plus tard le soir, puis c'est mon espace, là.
Oui, oui. Puis... au bénéfice de nos éditeurs et auditrices, c'est sûr que vous êtes des femmes inspirantes. On voit tout le parcours. Mais il y a des moments difficiles, ça, il faut dire. Il y a pas mal de moments difficiles aussi, on le sait, même si les résultats sont extraordinaires. J'aimerais ça que vous nous parliez d'un moment, soit dans la carrière d'athlète ou dans vos parcours professionnels, qui des moments plus difficiles que vous avez dû surmonter. Armin, est-ce que déjà vous avez quelque chose à
nous
partager?
Ben, oui, j'en ai un qui est tout frais, là. C'est le retour des championnats du monde. Ça a été très difficile. Là. Ça a été une expérience qui a été tout aussi magnifique et incroyable. Personnellement, dans ma carrière d'athlète, c'était un rêve là, de éventuellement un jour représenter le Canada sur la scène internationale. Donc, pardon. Donc, cette expérience-là a été incroyable.
Oui.
Mais en même temps, ça a été très difficile parce qu'on n'a pas eu le résultat qu'on espérait. On a performé au meilleur de nos capacités, mais ça n'a pas donné nécessairement le résultat qu'on voulait.
Oui.
Et revenir d'une expérience qui est aussi haute au niveau émotionnel et revenir dans la vie de tous les jours un peu, ça a été... je m'y attendais pas du tout, là. Ça a été un peu un crash and burn, là. J'étais pas prête du tout, mentalement, physiquement, à revenir de ça comme ça. Puis le retour, ça a été un peu comme un choc. Mais ça m'a forcé à prendre une pause, à me recentrer sur moi-même, puis à retrouver mes points de repère. J'ai un de mes très bons amis qui m'avait fait le commentaire, qui était comme, on dirait que t'as perdu tes points de repère en ce moment, donc prends le temps de les retrouver, puis de retisser tes liens, où est-ce que t'en as besoin. Puis j'ai eu des gens autour de moi qui étaient extrêmement compréhensifs, qui m'ont laissé le temps, puis qui, de temps en temps, faisaient des petits check-ups, s'assurer que tout va bien.
Ouais. Fait
qu'au final, des moments comme ça, j'en ai eu auparavant aussi. Ça, c'est le plus récent, donc c'est à lui que je pense, tu sais. Mais même chose en médecine, à un moment donné, j'avais eu beaucoup, beaucoup de difficultés avec mes études. Je questionnais certaines choses, puis ça a été justement ça. C'est les gens autour de moi qui m'ont donné la chance de prendre un pas de recul, puis de me ressourcer. Puis après, bon, on s'accroche à ce qui nous fait du bien, donc les gens autour de nous, on s'accroche à ce qui s'est bien passé dans le passé, donc nos réussites d'avant ou... retrouver en nous cette espèce de force somnolente, là, de résilience, puis de continuer à pousser à travers ces événements-là qui sont plus difficiles. Fait que Au final, je suis très heureuse de l'expérience que j'ai eue. Je suis tellement fière d'avoir vécu ça,
oui.
tant les hauts que les bas, puis d'avoir été capable de remonter de ça, puis je suis prête à y retourner une autre fois.
Ah oui.
Avec la notion que ça peut être une expérience très émotionnelle aussi, mais,
tout à fait, oui.
mais c'est une belle chose au final. Là.
Ah oui. Maryse, pouvez-vous nous partager quelque chose?
Oui, j'étais en réflexion pendant que j'écoutais Armine. C'est drôle, j'en aurais certainement eu plusieurs à vous raconter quand j'étais athlète au moment où je le vivais. Là, maintenant, à distance, je revois tout ça autrement.
Mm-hmm.
C'est sûr que les périodes où d'absence de progression, il faut comprendre, en haltérophilie, on attrape des plateaux par moment où on ne progresse plus.
Oui.
Et là, finalement, après un an, deux ans, on réussit à refaire un petit 5 kilos de plus. Toutes ces étapes-là ont été difficiles. Les étapes aussi, bon, où il y avait moins de soutien financier, où ça a été compliqué par moment,
mm-hmm.
Ce qui n'a pas été le cas plus vers la fin de ma carrière, où là, les programmes de subvention se sont vraiment plus développés. La fin de carrière, hein, la décroissance, aussi a été pas évidente. Un défi, encore là, je reviens avec mon mot défi, mais auquel j'ai dû faire face, c'est quand j'ai arrêté l'haltérophilie. En fait, mon souhait ou mon but était de redevenir, comment je dirais, une personne normale, entre guillemets,
oui.
au sens besoin d'entraînement. Le corps a besoin de ça, la tête aussi. Là, à un moment donné, on peut pas s'entraîner 10 fois par semaine toute sa vie. Là, faut ramener ça. Puis c'est une décroissance progressive. Il y a eu toutes ces étapes-là. Mais je revois moins aujourd'hui ces moments difficiles-là. Il reste plutôt l'aspect positif de ce que j'ai pu vivre dans ma carrière sportive. Il y a de l'ennui, par contre, hein, certaines scènes qui me reviennent en tête, des moments de camp d'entraînement où l'ambiance était vraiment magnifique. Puis en médecine, c'est la même chose, hein, je le revois. Mais moi, il y a eu un temps où j'étais sur les bancs à l'université, puis écoute, la pression ou dans les stages à l'externat, puis j'avais nommé au papa de mes enfants, soeur, je disais jamais mes enfants vont aller là-dedans. Je vais tout faire pour qu'ils vivent jamais ça de leur vie. Puis on l'a d'ailleurs nommé même pour le sport, moi puis Serge. Il y a du beau, il y a du bon, c'est des parcours qui nous amènent beaucoup, mais il y a des envers de médailles aussi,
oui.
que des fois on se dit, ben nos enfants, est-ce qu'on veut vraiment qu'ils vivent tout ça?
Mm-hmm.
Tu sais, surtout, bon, les miens sont impliqués aussi dans le sport, puis on veut qu'ils vivent la compétition, développer l'esprit d'équipe, la saine compétition, apprendre à gagner, hein, correctement, mais apprendre à perdre,
oui.
apprendre la défaite, apprendre l'échec, se relever, tout ça, la résilience, effectivement, comme dit Armine, puis même chose au niveau, bon, la progression dans les études, mais des fois, effectivement, mm-hmm. on souhaiterait pas ça à nos propres enfants, tu sais, si je peux le dire, mais d'un autre côté, ben, je le souhaiterais aussi dans un autre sens. C'est un peu mitigé tout ça avec le recul, mais reste maintenant plus l'aspect positif de tout ce qui est ce
oui.
parcours-là, études, puis entraînement, compétition. Là.
Oui. Au micro avec Maryse Turcotte-Gironteau, psychiatre à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville, et Armine Christina Léo, résidente de troisième année de médecine d'urgence. Madame, à vous entendre, j'ai l'impression, ou je vois aussi deux femmes qui vont jusqu'au bout de soi, jusqu'au bout de leur décision, de leur activité pour... avoir le parcours accompli que vous avez, mais c'est sûr que peut-être tout le monde n'a pas cette force aussi, parce que c'est quand même une force. Donc, j'aimerais, Maryse, vous entendre là-dessus en tant que aussi psychiatre et tout, donc de dire comment que... on pense toujours qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout là, pour réussir la soi-disant réussite de nos sociétés.
Oui, effectivement, je pense qu'on c'est nommé, c'est dit, on est dans une forme de société qui valorise la performance. Mais c'est quoi la performance? Puis bon, on pourra en parler longtemps. Il y a des gens qui ont plus de facilité dans le système scolaire que d'autres, il y a des gens qui ont plus de facilité dans le sport que d'autres. Moi, je voulais bien être une championne de patinage artistique, oublions ça. J'aimerais bien exceller en batterie, j'ai pas de talent, mais j'aime ça, puis je pratique, puis je fais ce que je suis capable de faire. C'est d'arriver, je pense, pour toute personne à développer une estime de soi. Puis à être honnête aussi, tu sais, l'athlète de talent qui rate un entraînement sur deux parce que, l'effort, ça lui dit pas, bien, au moins qu'il puisse se l'avouer. Moi, l'effort que je peux fournir, bon, en fonction de ma volonté, puis des autres choses, hein, j'aime ça sortir avec mes amis, j'aime ça faire ci, ça, bien, c'est ça. Donc, et vraiment d'être honnête avec soi, de reconnaître ses limites, d'arriver à être fier. Puis c'est pas parce qu'on fait pas les Jeux olympiques ou bien on devient pas médecin, on peut faire plein d'autres choses dans la vie, plein d'autres niveaux à atteindre différents, puis en être tout aussi fier. C'est ça, là. C'est pas une question de jusqu'où on se rend. Puis je pense qu'il faut réussir à revenir à ça au niveau du day-to-day dans le quotidien. Là. Regarde-moi ma préposée aux bénéficiaires, là, Caroline qui est bonne dans son travail. Puis non, elle n'a pas un diplôme de médecin sur son mur. Puis non, elle gère pas des médicaments, puis des prescriptions, puis des analyses scientifiques de laboratoire. Mais c'est une excellente préposée aux bénéficiaires, puis elle fait bien son travail avec fierté puis avec passion. Donc, je pense qu'il faut ramener les choses dans les strates, les couches sociales. Moi, c'est un aspect qui me touche, puis autant même dans la compétition. Tu sais, l'athlète qui est capable de réussir à faire un jour son standard pour aller au provincial, mais Caroline, il a travaillé fort pour... Moi, c'est un peu le message que je laisse aux gens en général, puis d'aimer ce qu'on fait, puis de s'en sentir fier, mais d'être honnête, de dire, ben j'aurais pu, hein, ben peut-être, mais j'ai pas comme vous dites, j'ai pas l'énergie ou le désir de faire ces choix-là, ces sacrifices-là, mais moi, je vais m'arrêter là, en toute honnêteté. C'est un peu ça. Là. Moi, c'est ma façon aussi de voir les choses en général. Là.
OK. À vous entendre, je dirais, est-ce que c'est de se donner aussi sa propre image de la réussite, son propre mot de la réussite? Armine, qu'est-ce que ça vous dit?
Oui, non, tout à fait. Je pense que cette dernière phrase-là me touche beaucoup parce que je pense que c'est ça l'important. C'est qu'on a tous notre propre vision du monde dans lequel on évolue, puis on a tous... une vie qu'on a déjà eue, fait qu'est-ce qui pour nous constitue une réussite, ça doit vraiment devenir intrinsèque, ça doit s'éloigner l'espèce de standard sociétal qu'on s'impose, c'est se rapprocher de qu'est-ce qui, moi, à l'intérieur de moi, me fait franchement vibrer, me fait du bien, que je suis fière, que je peux me regarder dans le miroir puis dire « waouh, j'ai fait ça ». Puis que ce soit d'avoir gardé ces plantes en vie pendant toutes ces années.
C'est
exact, c'est vraiment difficile. Donc c'est cette fierté-là qu'on doit réussir à aller chercher à l'intérieur. Puis ça aide aussi à enlever cette espèce de pression-là qui nous est pas propre puis qui nous empêche en fait d'avancer. Parce que quand on se met sur le poids, sur les épaules, le poids du regard des autres ou de la réussite selon les standards de je sais pas c'est qui les a établis d'ailleurs, on se retrouve à avancer très lourdement dans la vie. Je pense que d'avancer avec légèreté, ça nous fait avancer beaucoup plus loin, beaucoup mieux, puis avec beaucoup plus de plaisir. Puis c'est ça le plus important, je pense.
Puis, en étant vous-même des femmes d'inspiration quand même, parce que l'inspiration, je pense, vous êtes quand même des modèles. Est-ce que de par ce fait, vous avez aussi des femmes qui vous ont inspiré? Donc, Maryse, est-ce que vous avez une femme qui vous a inspiré?
Ouf, vous me posez une grande question. En fait, au sens idole, tu sais, je suis pas une personne qui a eu des idoles, des modèles, mais moi, je vais vous en nommer une. En fait, c'est ma mère.
Oui.
Je regarde avec le recul dans son rôle de maman. Puis moi, mon père est décédé quand j'étais jeune. Elle s'est retrouvée mère monoparentale avec moi et ma sœur, deux petites filles hyperactives de, 5 ans et 2 ans. Puis elle a fait son bonhomme de chemin dans tout ça. Mais la façon dont elle nous a amené les choses... Et elle nous a laissé une grande liberté, ce qui démontrait, à mon sens, à moi, une confiance. avec un certain cadre, hein, tu sais, comment on dit, une main de fer dans un gant de velours ou l'inverse, là, je sais plus trop, là. C'est ça. Et moi, je pense que ma mère, ça a été quelqu'un pour moi de significatif dans toute ma vie. Ça l'est encore. Puis elle a toujours de bons conseils. Quand on est jeune, on est ado, on voit nos parents d'une certaine façon.
Exactement.
Avec le recul, on évolue. Puis Caroline, ben ma mère, elle a bien fait les choses.
Oui.
Puis je vous dirais, c'est la personne que je vous nommerais pour ma part à moi. Là.
Tout à fait, Maryse. Rapidement, on arrive à la fin. Armine et vous?
Oui, non, je dois dire que ce serait probablement un hybride. Moi aussi, ma mère, certainement, par rapport à sa générosité avec les gens. Un peu de Michelle Obama aussi pour l'impact social. Mm-hmm. Un peu de Serena Williams pour le « je suis qui je suis » puis vous avez juste à gérer ça parce que je suis excellente puis j'en suis fière. Fait qu'un petit mélange de tout ça. Je pense que moi, ce serait cet hybride-là comme personne.
Ah ben super! Alors, Maryse Turcotte, géranto-psychiatre à l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville et Armine Christina Léo, résidente de troisième année de médecine d'urgence. Ça a été un plaisir pour moi de vous avoir au micro. Donc, merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Puis, vous êtes définitivement des femmes à suivre. Et peut-être vous ne vous connaissez pas, mais maintenant, le contact s'est fait. Et puis, vous pouvez voir comment que nous, on a eu du plaisir à lire sur vous. Donc, ceci met fin à notre mission. Puis, merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.